Studio Tamani, voici nos informations en français.
Il est 8h sur la radio Kourou-Kondé, Kita, même heure partout au Mali. Bonjour et bienvenue à cette édition matinale dont voici les grandes lignes. La levée des sanctions de la CEDEAO et l'UEMOA sur le Mali a été renvoyée au 3 juillet prochain. Les chefs d'État de l'organisation sous-régionale n'ont pas pu s'entendre sur la question lors de leur dernière rencontre tenue ce samedi au Ghana. Le gouvernement du Mali dément et recuse les accusations d'exaction sur des civils par les FAMA rapportées dans le dernier bulletin trimestriel de la MINUSMA. Il indique que les forces armées maliennes sont respectueuses des droits humains. Éliminatoire Cannes 2023, les Aigles du Mali ont étrié ce week-end le Congo-Brazzaville par 4 buts à 0. Si les supporters éprouvent une joie, des chroniqueurs sportifs estiment qu'il y a des lacunes au niveau de la défense qu'il faut corriger. Le développement de ces titres dans un instant avec Assetou Kanté, Mamadou Ouattara assure la technique. Toujours pas de compromis entre le Mali et la CEDEAO. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, n'a pas pris de décision concernant une levée des sanctions contre le Mali, faute d'unanimité à l'issue du double sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO et de l'UEMOA, tenu ce samedi à Accra, au Ghana. L'organisation ouest-africaine a reporté ses décisions à un autre double sommet prévu le 3 juillet et prochain. Les détails avec Moussa Malé Sissoko.
Les dirigeants de la CEDEAO réunis à Accra ce samedi se sont séparés sans accord après plusieurs heures de huis clos. Les chefs d'État n'ont pas pu s'entendre sur une décision à l'unanimité. Certains pays, avec à leur tête le Sénégal et la Côte d'Ivoire, étaient favorables à l'allègement des mesures des sanctions prises contre le Mali, ont indiqué des sources concordantes. Ces États commencent à ressentir l'impact de ces sanctions sur leurs économies du fait que les importations vers le Mali sont très importantes. En revanche, trois pays, en l'occurrence le Niger, le Nigeria et le Ghana, se sont opposés à la levée des sanctions. Des sources diplomatiques, ces trois pays restent fermes sur le respect des textes de la CEDEAO. Ils craignent que les actions de ces militaires au pouvoir au Mali, au Burkina Faso et en Guinée ne suscitent l'envie chez d'autres. La conférence des chefs d'État a instruit au médiateur Goodluck Jonathan, l'ancien président nigérian, de continuer la discussion avec les autorités de transition du Mali. Cela en attendant la rencontre du 3 juillet. Les deux parties devront donc travailler à trouver un chronogramme consensuel et un mécanisme de suivi qui sera présenté lors de ce sommet ordinaire, a déclaré le président sénégalais Macky Sall. Pendant ce temps, le Mali reste sous les sanctions.
Et pour des experts, c'est aux autorités maliennes de se montrer plus convaincantes et rassurantes sur le respect des engagements relatifs au délai de la transition et à l'organisation des élections. Pour l'analyste chercheur Balon Diakité, la continuité du bras de fer ne sert ni le Mali ni la CEDEAO. Balon Diakité est politologue-chercheur au Centre de recherche d'analyse politique, économique et sociale CRAPES. Il est joint par Issa Omar Togola.
La CEDEAO avait toujours émis des conditions. Il fallait organiser les élections dans le plus bref délai. Et je pense que c'est là où il y a des discordances avec les autorités maliennes. Parce que jusqu'ici, apparemment, les autorités maliennes n'ont pas donné des garanties que le pouvoir va être remis aux civils à partir du délai imposé par la CEDEAO. C'est aux autorités maliennes de se montrer plus convaincantes dans les débats pour montrer à ces pays-là que effectivement cette fois-ci, le délai sera respecté et que nous sommes engagés vraiment avec toute la sincérité du monde pour aller vraiment vers l'organisation des élections. C'est à quoi il faut s'attendre. Soit les deux parties essayent de trouver un terrain d'attente, soit à l'absence d'un rapprochement des positions, on va toujours rester dans cette situation. Et je pense que ça ne sert ni les intérêts du Mali, encore moins les intérêts de la CEDEAO.
8h passe de 4 minutes à Koutchala. Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Le gouvernement du Mali a rendu public le 31 mai 2022 un mémorandum sur la note trimestrielle dans laquelle la MINUSMA a accusé les forces de défense et de sécurité maliennes d'exactions sur des civils du 1er janvier au 31 mars 2022. Dans le document, le gouvernement a réfuté ces allégations et indique qu'elle ne s'appuie sur aucune preuve tangible. Le point avec Draman Maïga.
Dans le texte, le gouvernement a déploré que ces allégations tendancieuses sont non recoupées et rapportées par des témoignages non contradictoires et ne s'appuyant sur aucune preuve tangible. Et aussi, ces fausses accusations n'ont pour objectif que de ternir l'image des forces de défense et de sécurité maliennes, regrette le gouvernement. Dans le document, les autorités de transition ont précisé que le Mali dispose bel et bien d'une armée nationale bien outillée en matière de droits de l'homme. Le gouvernement du Mali, conscient de sa responsabilité première de protéger les personnes et leurs biens, est résolument déterminé à poursuivre le renforcement du cadre juridique et institutionnel pour respecter et faire respecter les droits de nos propres populations, a poursuivi le gouvernement. Aussi, les autorités ont rappelé leur attachement au droit international humanitaire. Elles ont indiqué que des enquêtes sont ouvertes à chaque fois que de telles accusations sont signalées pour sanctionner les potentiels responsables en cas d'abus avéré. Rappelons que dans cette note trimestrielle, la mission onusienne a indiqué que les forces armées maliennes se seraient rendues coupables d'exactions extrajudiciaires et des représailles contre les populations civiles à l'intérieur du pays.
Les journalistes Amadou Nyaliboli, Moussa Digo et Olivier Dubois sont toujours aux mains de leurs ravisseurs. Leurs familles ainsi que les organisations syndicales des journalistes maliens réitèrent leur demande aux plus hautes autorités afin de tout mettre en œuvre pour leur libération. Le point avec Aboubakri Niatara.
Il n'y a pour le moment aucune nouvelle des journalistes enlevés ou disparus au Mali. Cette déclaration est du président de la Maison de la Presse du Mali. Toutefois, Bandjougou Danté interpelle les autorités à multiplier les efforts pour faire aboutir les enquêtes sur la disparition de Birama Touré du journal Les Sphinx et les autres confrères enlevés dont Hamadou Nyaliboli de la radio Dandé de Douanza, Moussa Diko et Olivier Dubois. Depuis la dernière apparition de ces derniers dans une nouvelle vidéo partagée sur les réseaux sociaux le 13 mars 2022, il n'y a eu aucun signe de vie. On demeure aussi sans nouvelles de Hamadou Nyaliboli et Moussa Mbana Diko enlevés entre 2020 et 2021 dans la région de Mopti. Les parents et les proches de ces derniers aussi continuent de garder espoir. Ils disent compter sur les autorités de la transition pour la libération de leurs proches. Pour rappel, les organisations syndicales des journalistes maliens et français ont elles aussi demandé il y a quelques semaines aux plus hautes autorités de tout mettre en œuvre pour la libération de ces journalistes.
Sur un tout autre chapitre, le bon début de l'hivernage annonce une bonne campagne agricole, affirment des responsables de la CMDT de Kita et de Kuchala. Ils expliquent que toutes les dispositions sont mises en place pour approvisionner en intrants agricoles suffisants et de bonne qualité les agriculteurs au titre de la campagne agricole 2022-2023. Cependant, ils demandent aux autorités de fournir plus d'efforts pour la disponibilité de l'engrais urée qui devient de plus en plus rare sur le marché. Les détails dans ce reportage de Sita Sidibé.
Selon les responsables de la CMDT de la filiale ouest de Kita, tous les intrants nécessaires pour un bon démarrage des activités agricoles ont été mis à la disposition des agriculteurs. Moro Diakte est le directeur général de la CMDT de Kita.
Au niveau de la zone de Kita, l'hivernage s'annonce à hauteur de souhait. Les discussions sont réunies aujourd'hui pour une bonne campagne agricole en termes d'approvisionnement en semences, en intrants. En termes de semences, nous sommes à plus de 104% de mise en place. En termes de complexe céréales, nous sommes déjà à 100%. En termes de complexe coton, nous sommes à 87%.
Cependant, à Kuchala, la direction régionale de la CMDT alerte sur l'insuffisance des intrants agricoles prévus pour la région au cours de cette saison. Selon eux, les 9000 tonnes d'engrais déjà disponibles sont insuffisants pour toute la région. Haruna Sankare est le directeur général de la CMDT de Kuchala.
En tout cas, les prévisions n'ont pas été à la hauteur de l'année dernière. Nous avons reçu la notification par rapport à 8455 tonnes, tout engrais confondu, engrais chimiques et engrais organiques. À ce qui concerne les engrais chimiques, l'urée, nous n'avons reçu que 503 tonnes pour l'ensemble de la région. Bon, les engrais organiques, nous avons 7678 tonnes.
À noter que les responsables des deux centres de la CMDT dénoncent tous le manque d'engrais urée pour le début de cette saison.
Et à Bankass, les intrants agricoles sont chers, déplorent les agriculteurs. Un kilo d'engrais est vendu entre 600 et 1000 francs CFA selon la qualité. En plus de l'inaccessibilité des engrais, l'insécurité fait planer aussi un risque sur la campagne agricole, s'inquiètent les habitants. Il faut rappeler que la ville de Bankass a eu ses premières pluies ce samedi 4 juin 2022. Parlons sport, football, éliminatoire Cannes 2023. Les Aigles du Mali ont dominé le Congo-Brazzaville par 4-0. Cette rencontre s'est jouée le samedi dernier à Bamako au stade du 26 mars. Selon des analystes sportifs, le Mali a fait un très bon match. Toutefois, il pense qu'il faut attendre 3 à 4 rencontres pour apporter un jugement de valeur sur cette équipe. De leur côté, les supporters des Aigles jubilent. Toutefois, ils estiment que l'encadrement doit travailler pour pallier aux lacunes constatées au niveau défensif. Ousmane Alibouli.
Selon des analystes sportifs, l'équipe nationale a fait un grand match. Ils estiment qu'un changement est visible du côté de l'encadrement et de l'animation offensive. Suleiman Bobo Tunkara, analyste sportif.
Quand on gagne 4 à 0 sur une seule mi-temps, c'est vraiment extraordinaire. Et la manière donne beaucoup d'espoir pour la suite des débats. Mais une fois de plus, gardons les pieds sur terre. Il ne faut pas trop s'enflammer. C'est le premier match. Non seulement ça donne confiance aux joueurs, mais surtout ça rassure les supporters. Donc il faut espérer simplement que l'équipe va continuer sur cette lancée. Et tout n'a pas été parfait hier. Il y a eu quelques erreurs au niveau de la défense.
Toutefois, les supporters des Aigles que nous avons rencontrés dans la capitale malienne félicitent les nouveaux sélectionneurs et les joueurs pour cette victoire. Ils estiment que beaucoup reste à faire pour atteindre l'objectif final qui est la qualification des Aigles à la prochaine CAN.
Félicitations à notre nouveau sélectionneur qui vient d'atteindre son premier objectif. Il doit travailler durement pour faire la différence.
Il va falloir qu'on redouble d'efforts parce qu'on a un problème de défense en fait. Concernant l'entraîneur, je vais attendre d'abord 2 ou 3 matchs, voir ce que ça va donner.
Vraiment, nous sommes très très contents, très fiers de vos Aigles.
Rappelons que pour la deuxième journée de ces éliminatoires, le Mali rencontrera le Soudan du Sud le 9 juin prochain à Kampala, la capitale ougandaise.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Faisons à présent un tour dans les régions. Deux véhicules quittant Gao pour l'Algérie ont été interceptés ce samedi par des hommes armés sur une moto. Ils ont tiré sur l'un des chauffeurs qui a succombé à ses blessures sur le champ, indiquent des sources locales. Pour le moment, pas plus de précisions sur l'assassinat, mais plusieurs sources parlent déjà d'un règlement de compte. Plus d'une centaine de membres et sympathisants de la section en Sardine de Yorosso ont pris part hier à une journée de salubrité et un don de sang au centre de santé de référence de Yorosso. Après le nettoyage des locaux du centre de santé, plus de 60 poches de sang ont été récoltées lors de cette journée. Selon les organisateurs, cette activité entre dans le cadre de la célébration du 67e anniversaire de leur guide, shérif Ousmane Madani Aïdara. Les responsables du CCRF de Yorosso ont salué le geste et surtout en cette période hivernale. Il est 8h passées de 12 minutes, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi, mais vous pouvez écouter toutes ces informations sur notre site web www.sudiotamani.org ou en appelant gratuitement sur Viamo au 37 321. Restez à notre écoute. Dans quelques minutes, ce sera la version Bambara de cette édition et c'est une présentation de Idrissa Sako. Mais avant tout de suite, le magazine Parlons de l'environnement. Faciliter l'écoulement des eaux de pluie pour éviter des inondations dans la ville de Tomiña, c'est l'objectif d'une opération de curage des caniveaux en cours dans la région de Sang. C'est une initiative de l'ONG WHH et ses partenaires. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de l'environnement célébrée ce 5 juin. Les travaux de 24 jours prendront fin le 18 juin prochain. La population souligne que ces caniveaux n'avaient pas été curés depuis 2012. Ce magazine Parlons de l'environnement est réalisé par notre envoyé spécial Ousmane Alibouli et notre correspondant à Tomiña, Issiaka Koulibaly.
Le magazine Parlons de l'environnement.
Selon les organisateurs, cette initiative a pour objectif de rendre la ville de Tomiña plus propre et de créer aussi des emplois temporaires. Moussa Sanogo, un des responsables du projet Weltinger-Ulfe.
L'objectif de ce curage des caniveaux, comme c'est la journée internationale de l'environnement, qu'on aille à initier de curer les caniveaux de Tomiña. Il s'agit de toute la ville. Parce que quand tu vois le moment de la pluie ici, c'est pas du tout facile. La ville n'est pas du tout praticable. C'est pourquoi on a initié avec le développement social. avec la mairie et le service de l'assainissement là, de curer les caniveaux. Donc les jeunes qu'on a ici, ils sont au nombre de 50, très bien équipés. Il y a également les femmes là-dedans. Ils sont payés 3000 par jour. On a pris 24 jours pour les travaux. Ils sont payés à 3000 par jour chacun. En même temps, on a également prévu 4 tricycles pour l'évacuation des déchets.
Cette initiative est la bienvenue, se réjouit le deuxième adjoint au maire de Tomenya. Selon Simone Kone, les autorités communales de Tomenya sont en train de tout faire pour que le maximum de caniveaux puisse être curé. Simone Kone, deuxième adjoint au maire de Tomenya, chargé de l'environnement.
En cette approche d'hivernage, chaque hivernage, les caniveaux sont bourrés et l'eau inonde la population. Les maisons sont détruites. Donc, s'il y a une activité de ce genre pour permettre à l'eau de couler facilement, c'est vraiment la bienvenue.
Vous, en tant qu'autorité communale, qu'est-ce que vous faites pour appuyer ceux qui font cette activité?
Le projet vient de nous. La mairie seule ne pouvait pas le faire. C'est un grand travail. Maintenant, on a demandé à WHH de nous aider à travers un écrit pour qu'on puisse avoir un programme de l'assainissement de la ville de Tomenya. C'est comme ça, au retour, ils nous ont dit que nous avons bénéficié de cette activité. Donc, on était tout fait pour les appuyer, le projet, pour que le travail puisse correctement se faire et qu'on puisse curer tous ces caniveaux.
Le service de l'assainissement de Tomenya trouve cette initiative salutaire. Talahata Touré, chef service d'assainissement de Tomenya.
C'est une bonne initiative d'un partenaire qui nous est venu nous aider, qui nous accompagne pour le curage de caniveaux. Dans le 15e environnemental, on a pris comme thème l'activité, parce qu'il y a trop d'activités. Et l'activité est réalisée cette fois-ci sur le curage de caniveaux dans la ville de Tomenya. Non, ça c'est très important. Le chef de village même était présent ce matin, au début des travaux, pour nous appuyer et dire qu'il nous encourager. Il y a même des passants qui nous ont donné de l'argent pour nous encourager, car c'est une bonne initiative. C'est des actions citoyennes. Et si on trouve un partenaire qui nous aide, vraiment, c'est le bienvenu.
De leur côté, les habitants se disent aussi très satisfaits de cette opération. Ils estiment que ce curage des caniveaux va permettre d'éviter d'éventuelles inondations.
Nous en sommes très contents, car cette initiative nous protégera contre les catastrophes, notamment à l'approche de l'hivernage. Si les caniveaux sont bouchés par les ordures, il y aura forcément des inondations. C'est une initiative à répéter chaque année, car nous souffrons des inondations à chaque saison. Nous les saluons pour ce travail.
S'il pleut beaucoup, l'eau peut causer beaucoup de dégâts. Donc, c'est bien de curer les caniveaux.
Le service du développement social et de l'économie solidaire de Tomenya estime que ce curage des caniveaux sera très bénéfique pour la ville. Ses responsables se disent prêts à accompagner les organisateurs de cette activité pour sa mise en œuvre efficace. Soma Diara, représentant du service du développement social et de l'économie solidaire de Tomenya.
Le curage des caniveaux, depuis le départ, la mise en place du comité, ils ont impliqué les services techniques, le développement social et le service de l'assainissement. La mairie aussi, qui est l'acteur principal. Nous espérons que ça va beaucoup, beaucoup soulager la population du cercle de Tomenya, parce que les caniveaux que nous avons sur la RN35, la route qui va vers le Burkina, les fossés étaient vraiment remplis. Donc le curage de ces caniveaux va donner une très bonne visibilité même de l'environnement, ce qui concerne vraiment les caniveaux de Tomenya.
Rappelons que les caniveaux de Tomenya n'ont pas été curés depuis 2012, selon les habitants de la ville. Ce magazine est réalisé et présenté par Ousmane Nyalibouli avec la participation de Issiaka Koulibaly, correspondant de Studio Tamani à Tomenya.